Voilà, bien, nous allons à présent ouvrir la parole de Dieu parce que ce à quoi vous venez d'assister, c'est le résultat, le produit de la parole de Dieu agissant dans le cœur de nos amis. Et je vous invite à faire avec moi une lecture qui se trouve donc évidemment dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26. Nous trouvons là l'histoire d'un personnage qui, lui aussi, eh bien, s'est engagé envers le Seigneur par le baptême. Vous voyez, nous n'avons rien inventé, mais ces choses-là, eh bien, trouvent leur origine dans la Bible, la parole de Dieu. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26, il est écrit ceci: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe et à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Voilà. Voilà donc l'histoire de cet Éthiopien, n'est-ce pas, qui était venu de son lointain pays, parce qu'à l'époque c'était un voyage assez considérable, jusqu'à Jérusalem. Ce que nous remarquons, c'est que ce personnage avait un niveau social, intellectuel élevé, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il était ministre des finances de la reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Donc, vous voyez, un homme qui, sur le plan de la hiérarchie sociale, avait une position élevée, et puis aussi un homme qui avait un bagage intellectuel, ma foi, assez développé, puisque c'était lui qui était chargé de la gestion des affaires du royaume d'Éthiopie. Et cela nous montre une chose, c'est que la foi n'est pas contraire, n'est pas opposée à la raison. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que seuls les gens un petit peu simplés, un petit peu niais, qui sont prêts, comme on dit vulgairement, à avaler toutes les couleuvres, ce sont ces gens-là qui ont la foi. Mais pas du tout. On peut être intelligent, on peut être brillant même, cérébralement, On peut savoir réfléchir et en même temps être un homme ou une femme de foi. C'était son cas. D'ailleurs, la Bible dit que la foi, c'est une preuve de bon sens. Et que, au contraire, ceux qui se refusent à croire, ceux qui demeurent dans l'incrédulité, dans le scepticisme, dans la négation, le refus de la personne de Dieu, ce sont les insensés. L'Écriture dit que l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Voyez ? Si donc, quelque part, vous avez cette juste notion, cette conception qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, eh bien, vous faites preuve de bon sens, vous faites preuve d'intelligence. Nous remarquons aussi que cet Éthiopien avait déjà entrepris une démarche spirituelle importante. Il était passé du paganisme, et certainement de l'animisme, à la foi dans le Dieu vivant et vrai. Vous savez, l'animisme, c'est croire que tout est Dieu, et que Dieu est en tout. Hein? Alors les animistes, eh bien, ils vont adorer un arbre comme étant un Dieu, ils vont adorer une montagne comme étant un Dieu, ils vont adorer le soleil, la lune, comme étant des dieux ou des déesses. Et de par ses origines, en Éthiopie, c'était certainement la conception qui lui avait été enseignée, la religion de ses pères. Ben, je ne sais de quelle façon, de quelle manière cela s'était produit, mais cet homme, eh bien, était sorti de ce paganisme originel pour parvenir à la foi dans le Dieu vivant et vrai, parce que, mes amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Le Dieu unique, créateur de toutes choses, qui s'est révélé justement au peuple d'Israël. Et cet Éthiopien s'était ainsi converti à la foi israélite. Vous voyez ? Il était passé de l'animisme, de la croyance dans une multitude de dieux et de déesses, à la foi dans un Dieu unique. C'était un premier pas. C'était un premier pas important. C'était une démarche spirituelle remarquable. Mais Dieu voulait le conduire plus loin. Et je suis convaincu que cet après-midi, il y a au milieu de nous des gens que Dieu veut conduire plus loin qu'ils n'ont été jusqu'à ce jour quant aux affaires spirituelles. Malgré tout, vous voyez, malgré ce cheminement spirituel qu'il avait engagé, malgré tout, malgré donc sa participation au culte israélite, quand même, il avait entrepris ce pèlerinage qu'il avait conduit d'Éthiopie jusqu'en Israël. Il avait été jusqu'au temple de Jérusalem. Et certainement, là, il avait participé à toutes sortes de cérémonies religieuses remarquables, grandioses. Mais malgré tout, cet homme était encore en recherche. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Eh bien, parce qu'à la lecture de ce passage que nous venons de faire, on s'aperçoit qu'il était plein de questions, plein d'interrogations. Ben, si vous avez noté, regardez, verset 31, lorsque l'évangéliste Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» car il était en train de lire la parole de Dieu, il répond « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» On va un petit peu plus loin, au verset 34, et après avoir lu ce texte qui était là sous ses yeux, l'Éthiopien dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Enfin, il a des questions à n'en plus finir. Vous savez, c'est une bonne chose que de se poser des questions. C'est une bonne chose que de se poser des questions, et c'est encore meilleur de se poser les bonnes questions. Est-ce que vous vous interrogez, par exemple, sur le sens de votre vie ? Sur la réalité de la mort qui sera le lot de chacun d'entre nous, nous le savons bien. Et aussi, posez-vous des questions sur la question de l'au-delà. Voyez, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a trop de gens qui vivent au jour le jour. Ils sont uniquement préoccupés, eh bien, de leur vie matérielle, de leurs petites affaires, de leurs loisirs, de leur travail, et de tout ce qui concerne ces choses-là. Et l'Écriture dit qu'il y a bien des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, ils ont même pour Dieu leur ventre. Eh bien, ne soyez pas de cela, mes amis. Nous avons entendu le témoignage de nos amis, c'est pas, qui, eh bien, étaient partis dans certaines directions, par exemple Daniel, pour lequel Tout ce qui comptait, c'était d'avoir de gros bras. Hein? Et c'est quand même quelque chose qui est à courte vue. Et puis un jour, eh bien, les choses ont changé. Béni soit le Seigneur. Nous devons comprendre une chose. C'est que la Bible dit vrai quand elle déclare qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu et que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors pour ce moment solennel, pour cet instant solennel où nous comparaîtrons, vous et moi, devant Dieu, savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». On passe notre vie, l'avez-vous remarqué, à préparer des tas de choses. Hein? On prépare notre avenir professionnel quand on est jeune. On prépare un examen scolaire ou universitaire. On prépare, je ne sais pas quoi moi, le permis de conduire par exemple. On prépare son mariage. On prépare, eh bien, sa retraite. Ça vient un jour, n'est-ce pas? Mais il faut aussi, il faut surtout se préparer à rencontrer Dieu. Et me vient à l'esprit l'histoire de cet homme. C'était un professeur d'université. Je cite souvent cette histoire. Eh bien, je la répète encore cet après-midi. C'était un homme qui avait un bagage intellectuel, lui aussi, assez important. Et c'était un universitaire, donc. Et il était là, comme on dit, sur son lit de mort, dans ses derniers moments, ses derniers instants. Et voici que cet homme fera à sa femme cette confession terrible. Il lui dira, vois-tu, j'ai passé la première partie de ma vie à apprendre beaucoup de choses. Et puis, j'ai passé la deuxième partie de ma vie à enseigner beaucoup de choses à mes étudiants. Mais j'ai oublié l'essentiel. Je vais mourir et je ne sais pas où je vais. Est-ce qu'il y a ce genre d'interrogation dans votre vie? Vous savez, nous savons tous qu'un jour nous allons mourir. Même si nous essayons de chasser cette idée, de dire, allez, les pensées morbides, il faut les évacuer. Nous savons que notre vie arrivera un jour à son terme. Ni vous, ni moi, nous ne pouvons être assurés de vivre, eh bien, quelques jours encore. Nous pouvons très bien partir d'un instant à l'autre. Nous pouvons avoir aussi de nombreuses années encore devant nous. Mais le fait est certain, il est réservé aux hommes, dit l'Écriture, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pour cet instant décisif, où vous allez vous retrouver face à face avec celui qui est votre Créateur, vous êtes-vous préparé? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Avez-vous pris soin de régler avec lui la question de vos péchés? Avez-vous cette certitude, cette assurance dans votre cœur que l'affaire est réglée, que Dieu vous a fait grâce, que votre noir passé est effacé, qu'il vous a pardonné et qu'il vous a préparé une place auprès de lui dans le ciel? Il faut être clair sur cette question-là. On ne peut pas se payer le luxe de dire « on verra bien ce qui arrivera ». Non, non, mes amis, il faut être affirmatif, il faut être plein d'assurance. Et Dieu, dans sa parole, nous promet que si nous réalisons les conditions pour cela, nous pouvons posséder l'assurance et la certitude de notre salut. Je sais que je suis sauvé, alléluia. Non pas parce que j'ai la prétention d'être meilleur que qui que ce soit, mais parce que moi aussi un jour, eh bien je me suis posé la question de mon éternité, la question du salut de mon âme, et j'ai compris la nécessité de recevoir par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, mort pour moi sur la croix, de recevoir de sa part le pardon de mes péchés. Et je lui ai ouvert mon cœur. Je n'étais qu'un jeune garçon, j'avais une quinzaine d'années à l'époque, et il m'a fait grâce. Et je me souviens, tenez, comme si c'était hier, de ce jour de mon baptême, c'est pas où j'ai été plongé moi aussi et dans le bain baptismal. Et je me souviens de la joie qui était au fond de mon cœur lorsque ce geste fut accompli, comme si je n'ai pas entendu de voix, non, mais je sentais l'approbation de Dieu sur ma vie. Je savais qu'il m'avait sauvé, je savais qu'il m'avait pardonné, je savais qu'il m'avait préparé une place dans le ciel. Et cette assurance qu'il m'a donnée il y a bien des années, je la possède encore dans mon cœur. Cette assurance-là, vous pouvez la voir, chers amis. Le but de cette réunion, c'est de vous permettre de recevoir, non pas une petite religion de quatre sous, mais de recevoir le pardon de vos péchés, le salut de votre âme, et que vous soyez en paix avec Dieu. Voyez-vous, pour cet homme qui était en recherche, l'évangile fut la réponse à ses questions. Alléluia. La solution à ses nombreuses interrogations, à son dilemme intérieur. J'aime ce verset où il dit que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. La bonne nouvelle de Jésus. L'évangile, c'est pas rébarbatif. Amen. C'est pas pénible. C'est pas rabat-joie. C'est pas quelque chose qui vient nous opprimer, qui vient nous contraindre. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Dieu a vu ce personnage, cet Éthiopien, et dans son providence, il a dirigé vers lui l'un de ses meilleurs prédicateurs, l'évangéliste Philippe, qui, je le répète, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous affirme, qui nous communique que la vraie réponse, la vraie solution, elle se trouve en Jésus, et en Jésus uniquement. Alléluia. En Jésus exclusivement. Vous savez, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout est relatif. Et qu'il faut en prendre un petit peu ici, il faut en prendre un petit peu par là, qu'on mélange le tout, on touille tout ça, et que, eh bien, ce faisant, on abordera peut-être un semblant de vérité. Non, non, c'est pas comme ça que la Bible voit les choses. Jésus dit d'une manière très affirmative, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non pas un chemin, non pas une vérité parmi d'autres. Non pas une vérité relative, mais le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité, voulez-vous la connaître? C'est que Dieu nous aime. Amen. Cette vérité, c'est qu'il nous a vus dans notre désarroi, dans notre détresse. Cet homme était dans le désarroi. Cet homme ne savait plus trop où il en était. Comme on dit, il ne savait plus trop à quel saint se vouer. Et Dieu l'a vu. Et au milieu de nous, peut-être cet après-midi, y a-t-il des gens qui, de près ou de loin, lui ressemblent? Peut-être que vous êtes dans le désarroi, dans la confusion, dans la détresse, dans la souffrance. Peut-être s'est-il produit dans votre vie quelques drames qui vous a brisé le cœur. Et puis aussi Dieu vous a vu dans votre péché et il nous a envoyé Jésus pour nous tirer d'affaire, pour nous sauver, pour nous accorder une véritable sécurité. Le passage que l'Éthiopien était en train de lire, était un passage biblique, évidemment. Et ce passage biblique, eh bien, nous le trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Laissez-moi vous lire l'intégralité du passage que cet homme lisait. Il est dit ceci, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais écoutez ça. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de ses générations. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est de Jésus dont il est question. C'est de Jésus dont il est question. Et ce texte fait référence aux souffrances que Jésus dut subir sur la croix du calvaire. Il s'est passé quelque chose, mes amis, pour que vous et moi nous recevions la miséricorde de Dieu. Il s'est passé quelque chose. Lorsque le Fils de Dieu a été cloué et lorsqu'il a agonisé pendant si longues heures sur la croix du calvaire, pourquoi est-il mort de cette mort aussi atroce, aussi ignominieuse? La Bible dit « Christ est mort pour nos péchés ». Vous et moi, du fait de notre péché, du fait de nos désobéissances à la loi divine, nous méritons la mort, nous méritons l'enfer, nous méritons la condamnation, le jugement et le châtiment de la part de Dieu. Mais pour nous épargner ce sort tragique, Christ, Jésus, le Fils de Dieu, qui lui-même était sans péché, a pris à son compte nos péchés, et sur la croix, eh bien, il a subi le châtiment, la punition, la sanction, la condamnation que nous méritions. C'est pour ça qu'il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es un brave type. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es une femme remarquable, remplie de qualités morales hors du commun. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es généreux avec les malheureux, parce que tu as, comme on dit, le cœur sur la main. Non, tu iras au ciel parce que Jésus est mort pour toi. Tu iras au ciel si tu mets ta foi en lui. Tu iras au ciel si tu lui dis, eh bien, je reconnais que je t'ai offensé, que j'ai péché contre toi, et humblement, de tout mon cœur, ô Dieu, je t'en demande pardon, et j'accepte de croire que le Christ a dû souffrir aussi pour moi. Ce ne sont pas seulement les gens méchants de son époque qui l'ont cloué sur le bois de la croix, mais ce sont mes péchés qui l'ont conduit là. Et si je mets ma foi, si je mets ma foi, si tu mets ton espérance dans l'œuvre de Christ, alors en un instant tes péchés, aussi affreux soient-ils, seront pardonnés, purifiés. Nous l'avons chanté tout à l'heure, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il a pardonné mes péchés. C'est là le sens de l'évangile. Voyez, l'Éthiopien a cru à ce message. Il a appris à mettre sa foi en Jésus qui venait de lui être présenté et, important, il a démontré, il a concrétisé sa foi en étant baptisé. Voilà, le hasard, si hasard il y a fait que, chemin faisant, ils sont passés devant une étendue d'eau. Alors l'Éthiopien a dit à son interlocuteur, au prédicateur Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Eh bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et ce fut chose faite, n'est-ce pas? Remarquez ceci. C'est que cet Éthiopien, s'il fut baptisé, c'était une décision personnelle. Personne n'a choisi à sa place, même pas ses parents. Dans notre contexte de tradition religieuse, chrétienne ou tout au moins christianisée, nous avons l'habitude que bien souvent ce sont les parents qui apportent leur nouveau-né sur ce qu'on appelle les fonts baptismaux pour qu'ils prennent, paraît-il, le baptême. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé là. C'était la décision de cet individu. C'était son choix à lui. C'était sa décision. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Il s'agissait là d'un adulte, non pas d'un nouveau-né, mais d'un adulte, de quelqu'un qui était en âge de prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça que ça doit toujours se passer. Et puis ce baptême fut un baptême par immersion, comme ceux auxquels nous venons d'assister il y a quelques instants. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il est dit, ils descendirent dans l'eau, et puis lorsqu'ils furent baptisés, ils sortirent de l'eau. Vous savez, dans le fait d'être plongé dans l'eau du baptême, il y a là toute une signification symbolique profonde. Nous pourrions dire cet après-midi qu'en voyant nos amis prendre le baptême, nous avons assisté à leur mort, mais oui, à leur ensevelissement, leur enterrement, mais aussi, gloire à Dieu, à leur résurrection. Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est mourir à notre passé. Ils vous ont dit en deux mots ce qu'ils étaient autrefois. Mais ce qu'ils étaient autrefois, maintenant ils ne le seront plus par la grâce de Dieu. Non pas simplement parce qu'ils ont pris une bonne résolution, mais parce qu'une œuvre s'est opérée dans leur vie. Christ les a fait mourir à leur passé et les a fait renaître à une vie nouvelle. Et ils en ont rendu témoignage par le baptême. Notez la question qui a précédé le baptême. Cet homme a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Autrement dit, quelles sont les conditions pour être admis au baptême? Elles sont de deux ordres. D'abord, pour pouvoir être baptisé valablement, il faut se repentir. Repentez-vous, c'est le message de la Bible. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? La repentance, c'est un acte par lequel on fait l'aveu de notre péché à Dieu et à Dieu seul. Ce que Dieu attend de votre part, c'est que vous vous reconnaissiez pécheur et coupable devant lui, n'attend pas que vous disiez que vous êtes plus mauvais que les autres, mais que vous reconnaissiez votre responsabilité personnelle, que vous admettiez une bonne fois pour toutes que, c'est vrai, vous avez désobéi à ses commandements, vous avez transgressé sa parole, et ce faisant, vous l'avez offensé. Et il faut que vous le lui disiez, que vous lui exprimiez votre regret, que vous lui demandiez pardon, que ça sorte de votre cœur, et que ça sorte même de votre lèvre, et de vos lèvres, et que vous preniez avec son aide et son secours la décision de changer d'orientation. Alléluia. Quand on se repent, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait et qu'on ne fait plus. La page est tournée. Alléluia. La page est définitivement tournée. Et puis s'il faut se repentir pour pouvoir être admis valablement au baptême, il faut aussi la foi. La foi en ce Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Il est mort. Mais les choses n'en sont pas restées là. Amen. Il est aussi ressuscité le troisième jour. Nous avons affaire à un sauveur vivant. Amen. Nous avons affaire à un sauveur vivant. Et votre responsabilité, c'est de dire, Seigneur, je crois que, eh bien, tu as donné ta vie en rançon. Tu as payé les prix. Vous savez, vous pouvez essayer de multiplier les actes de piété. Vous pouvez essayer de participer à toutes sortes de cérémonies religieuses, de faire des prières à n'en plus finir. Ça n'effacera pas un seul de vos péchés. Mais si vous mettez votre foi dans la personne et dans l'œuvre de Christ, vos péchés tous, d'un seul coup, seront effacés, pardonnés définitivement par la miséricorde de Dieu. La conclusion de cette histoire, nous la trouvons au verset 39, où il est dit que cet Éthiopien, il poursuivit sa route, tout joyeux. Amen. Tout joyeux. La vie chrétienne, Dieu ne veut pas qu'elle soit une vie de tristesse. Voyez, la plus grande joie, le plus grand bonheur qu'un être humain puisse éprouver, c'est quoi ? Faire un beau mariage, pourquoi pas ? Réussir socialement, professionnellement, pourquoi pas ? Voir des enfants venir au monde dans notre foyer, pourquoi pas ? Mais la plus grande joie, le plus grand bonheur qu'un être humain puisse connaître, puisse éprouver, c'est d'avoir la certitude d'être en paix avec Dieu. La plus grande joie, le plus grand bonheur qu'un être humain puisse éprouver, c'est de savoir que ses péchés sont pardonnés. La plus grande joie qu'un être humain puisse connaître, le plus grand bonheur, c'est d'être convaincu qu'il est désormais en route vers le ciel. Il y a un verset de la Bible qui dit ceci, « Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » On l'a chanté tout à l'heure. Je suis heureux, pourquoi ? Pas parce que je suis riche, à n'en plus finir, parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps, nous chantions dans les réunions de jeunesse un cantique qui disait « Je suis plus riche qu'un millionnaire. » Tu te souviens, René ? Dieu prend soin de moi. Alléluia. C'est la vraie richesse qui compte. La seule richesse qui compte. La richesse du cœur que nous connaissons déjà ici-bas, que nous emporterons jusque dans le royaume de Dieu. Si vous voulez être heureux, si vous voulez faire partie des gens les plus heureux sur terre, recevez Christ comme votre sauveur. Et il vous comblera de la joie du salut. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants, voulez-vous ? Notre Père, nous te disons merci pour...